Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Et bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, le coup de pression des maires à 10 jours du second tour. Il manque d'assesseurs. Dans ce journal également, ce gros revers pour l'armée russe. Et puis la première sélection du Festival de Cannes, ça commence dans un mois, le 17 mai.
Deux débats à partir de 12h40. D'abord, manger moins cher ne veut pas forcément dire manger moins bien. Voilà une bonne nouvelle, alors que le caddie flambe. C'est le résultat d'une grande enquête de l'association 60 millions de consommateurs qui a comparé les marques et les marques distributeurs. Et puis à 12h50, un jour, une proposition. Emmanuel Macron est au Havre aujourd'hui, déplacement sur l'écologie. Que propose-t-il vraiment? Quelle différence avec Marine Le Pen en la matière?
Notre question du jour sur RTL.fr. Accepteriez-vous d'être assesseur pour le second tour de la présidentielle? Vous dites non à 69%, oui à 25%. La météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Ça y est, le soleil est de retour.
Et oui, alors c'est pas du grand bleu, mais franchement, on a de belles éclaircies et ça fait du bien. Ça concerne la majeure partie du pays. Un peu plus de nuages peut-être cet après-midi sur les bords de Manche. Quelques petites averses possibles sur les reliefs, voire un coup de tonnerre. Et le tout sous des températures en hausse, globalement comprises entre 17 et 22 degrés au nord et de 22 à 25 au sud.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer donc, maire recherche assesseur. C'est l'appel lancé par plusieurs élus, dont celui d'Argenteuil. Aurélie Herbemont vous le révélait dès ce matin sur RTL. Faute de candidat pour le deuxième tour, il a carrément écrit au candidat.
Je suis habitué à avoir toujours les assesseurs qu'il faut au fil des ans. Il y a 20 ans, on avait beaucoup plus d'assesseurs qu'il ne fallait. Maintenant, on a beaucoup moins d'assesseurs qu'il ne faut. Et donc, on l'a vu dimanche. Il y a 50 bureaux de vote à Argenteuil, c'est pas négligeable. Certains ont fourni pour tous les bureaux de vote, d'autres ont fourni pour quelques bureaux de vote, et certains n'ont fourni aucun assesseur.
Donc, quand vous dites certains, c'est les partis politiques?
Les partis politiques, puisque les assesseurs sont fournis par les candidats ou les partis politiques. Et donc c'est ingérable pour dimanche en 8, puisque on n'aura plus que deux candidats, et deux candidats qui, pour Mme Le Pen, n'ont fourni qu'un seul assesseur au premier tour, et pour Monsieur le président actuel, n'a fourni que 18 assesseurs sur les 50 bureaux. Donc il y a problème.
Georges Mautron, le maire LR d'Argenteuil, au micro RTL de Mourad Jabari. Bonjour Gauthier de Lombugard.
Bonjour.
On est d'accord, c'est pas possible pour un maire de dire « je n'ouvre pas les bureaux de vote ».
Non, ce n'est pas possible car le code électoral a tout prévu. Le bureau de vote doit être composé d'un président, d'un secrétaire et d'au moins deux assesseurs pour s'assurer du bon déroulement du scrutin, vérifier les identités, participer au dépouillement. Ce sont d'abord les partis politiques qui fournissent ces assesseurs. Un par candidat, par bureau. Si les partis n'arrivent pas à remplir cette mission, eh bien, c'est au maire de la commune de s'en charger. Il peut d'abord solliciter ses conseillers municipaux, qui n'ont d'ailleurs pas le droit de refuser, sauf excuse valable. Si cela ne suffit pas, l'édile peut alors faire appel aux électeurs de son département. Fin de jour J, s'il manque toujours des assesseurs, il existe une ultime solution. Le président du bureau de vote désigne l'un des électeurs présents à l'ouverture. Le plus jeune d'entre eux est choisi en priorité, puis le plus âgé. Dans tous les cas, même avec un peu de retard, tous les bureaux de vote ouvrent leurs portes le jour des scrutins. Enfin, sachez que le rôle d'assesseur n'est pas rémunéré.
Merci à vous, Gauthier de Lombugard, pour ces explications.
En attendant ce 24 avril, il reste encore aux candidats 10 jours pour convaincre.
Emmanuel Macron est au Havre aujourd'hui, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête dimanche dernier avec 30% des votes. Déplacement consacré à l'écologie, William Galibert.
Oui, et il a des messages à faire passer sur le sujet. Tenez, tout à l'heure, aux côtés de Monsieur le maire, Édouard Philippe, il visitera une usine qui fabrique des éoliennes. Marine Le Pen les trouve hideuses, elle veut les démonter. Emmanuel Macron lui promet de construire 50 parcs d'éoliennes en mer d'ici 2050. Ça lui permet de jouer le contraste avec son adversaire du second tour. Et pourquoi pas aussi le petit clin d'œil aux électeurs mélenchonistes. Ici, vous l'avez rappelé, ils ont largement viré en tête dimanche soir. Ils ne sont pas insensibles à la question des énergies renouvelables. Alors bon, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on se fait pas d'illusions, on sait bien que ce n'est pas quelques éoliennes qui suffiront à convaincre les insoumis, mais c'est un signal envoyé. Est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres? Oui, le programme peut s'enrichir, peut s'élargir, nous dit-on, mais pour les détails, il faudra repasser. Emmanuel Macron, qui est arrivé il y a une quinzaine de minutes, il a trouvé des fans, mais aussi une vingtaine de manifestants sur son chemin. Ils ont gentiment été éloignés par la police. Ils ont eu le temps de nous dire qu'ils avaient voté Mélenchon au premier tour et qu'il comptait s'abstenir le 24 avril.
William Galibert au Havre pour RTL. Du côté de Marine Le Pen, premier grand meeting de cet entre-deux tours. La candidate du RN sera ce soir à Avignon. Pour elle et ses militants, même enjeu, hein, convaincre les indécis, mais aussi les quelques 13 millions de Français qui se sont abstenus au premier tour. Illustration à Fronton, c'est près de Toulouse, où vous vous êtes rendu, Patrick Tégéro, dimanche. Emmanuel Macron est arrivé en tête, mais d'un cheveu, hein, 18 voix d'écart seulement avec Marine Le Pen, 18 sur 4000.
Julien Léonard-Dely est le jeune délégué départemental du Rassemblement National. Il a 34 ans et il tracte ce matin à domicile car il est conseiller municipal de Fronton. Il est accompagné par 3 militants.
Nous sommes mobilisés, ça tourne en fonction des agendas des uns et des autres.
Bonjour.
Vous voulez un petit papier ?
Clairement, on va pas se mentir, Marine Le Pen, les antécédents, enfin les... Enfin, l'héritage familial, il fait un peu flipper. Marine a quand même été élevée par Jean-Marie. Ouais.
Ça fait d'accord, mais est-ce qu'on regarde aussi les parents d'Emmanuel Macron ?
L'accueil est plutôt sympathique. On est en zone rurale, le marché accueille de nombreux retraités qui ne mâchent pas leurs mots.
Le problème sur la sécurité de Marine Le Pen.
Je m'en fous,
d'accord.
Tout sauf Macron.
Mais voilà, okay. Donc...
Certains proposent même des stratégies.
Moi, le pauvre, avec ma Twingo, je ne peux plus aller à Toulouse.
Les ZFE, c'est une case.
Eh bien, pourquoi vous n'en parlez pas ? Vous allez choper les mecs à Mélenchon, là, parce qu'ils ont des vieilles voitures aussi. Hein.
Elle est incapable de gouverner. Je l'ai écouté ce matin.
Oui,
incapable.
Vous
avez entendu ce qu'elle a dit avec Poutine ? De toute manière, elle ne passera pas, ça, c'est certain.
Ah, mais écoutez,
si les gens se mobilisent, si le peuple vote, le peuple gagne.
Ce qui peut être interprété comme un appel aux abstentionnistes, peut-être.
Patrick Tégéro à Fronton, en Haute-Garonne, pour RTL.
La guerre en Ukraine, 50e jour.
Et ce sérieux revers, un gros coup dur pour l'armée russe. Le croiseur Moskva, vaisseau amiral de la flotte en mer Noire, a été bombardé hier soir, Bénédicte Tassard, bombardé par les Ukrainiens.
Alors, le Moskva, c'est le symbole de la flotte militaire russe, le plus puissant bateau de guerre de la mer Noire, normalement basé à Sébastopol. C'est un navire de commandement mis à l'eau sous l'ère soviétique il y a 40 ans. Il a participé à l'intervention russe en Syrie en 2015, mais surtout, c'est ce navire qui a attaqué l'île aux serpents en Ukraine. Une bataille épique au début du conflit pendant laquelle les gardes frontières ukrainiens avaient lancé « Va te faire foutre » par radio au Moskva qui leur demandait de se rendre. Aujourd'hui, les autorités ukrainiennes disent avoir lancé 2 missiles Neptune, donc des missiles ukrainiens, sur le Moskva, qui aurait à son bord plus de 500 marins, des missiles antinavires, des lance-roquettes, des canons, des torpilles. L'équipage a évacué le bord, on voit les flammes dévaster le bateau. Moscou, de son côté, minimise bien sûr, parle d'un accident et d'une simple explosion de munitions. En tout cas, le Moskva n'a pas coulé, mais il est gravement endommagé.
Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL, au procès des attentats du 13 novembre, suite du dernier interrogatoire de Salah Abdeslam. Hier, à la barre, il a expliqué avoir renoncé par humanité. Ce sont ses mots. Cindy Hubert, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui suivez cette audience pour RTL. Que peut-on en attendre aujourd'hui ?
Eh bien, Salah Abdeslam va devoir répondre à une avalanche de questions, puisqu'hier, l'accusé a déroulé son récit à son rythme quasiment sans contradiction. Le président ne voulait surtout pas l'interrompre et risquer de gâcher ce moment que tout le monde attend depuis près de 7 ans. Mais le parquet et les avocats ont eu la nuit pour affûter leurs questions. Alors Salah Abdeslam assure qu'il voulait se faire sauter dans un café du 18e arrondissement. Mais où précisément ? Dans quel café ? Il jure aussi qu'il a rejoint les commandos à la toute dernière minute. Comment croire qu'il ne savait rien des attentats 24 heures avant ? Et dans cette jolie fable d'un homme qui tourne le dos à la mort, pourquoi dit-il ensuite à ses frères kamikazes que la ceinture explosive n'a pas fonctionné ? Pourquoi est-il en retard quand il dépose le commando du Stade de France alors même que le match a déjà commencé ? Cette fois, Salah Abdeslam ne pourra plus se cacher derrière des sourires. Cet ultime interrogatoire est celui de la dernière chance.
Cindy Hubert au Palais de Justice de Paris pour RTL.
C'est un monstre sacré, on l'a appris hier pendant les auditeurs ont la parole. Michel Bouquet est décédé à l'âge de 96 ans.
Et il aura droit à un hommage national, à une cérémonie aux Invalides. Ce sera le 27 avril prochain, c'est ce qu'annonce l'Élysée. Cérémonie qui sera présidée par Emmanuel Macron, qu'il soit réélu ou pas le 24 avril. Le monde du cinéma qui lui sera réuni à partir du 17 mai à Cannes. Ça y est, on connaît une partie du programme de cette 75e édition du festival. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
18 films, donc une partie seulement de la sélection et quelques grands noms.
Alors 4 ou 5 autres films seront rajoutés. Pas d'affiche à ce stade, pas de nom révélé pour la présidence du jury. Le festival est un petit peu à la bourre. On nous dit par exemple que beaucoup des 2200 films proposés diffusés cette année sont arrivés très tard. On sait cependant que c'est le français Michel Hazanavicius, récompensé en 2011 pour The Artist, qui ouvrira le bal hors compétition avec un film sur les zombies et le cinéma qui s'appelle Z comme Z. En compétition, quelques grands noms en effet. David Cronenberg, Arnaud Desplechin, les frères Dardenne, l'américain James Gray, le japonais Kore-eda ou encore Claire Denis et Valeria Bruni-Tedeschi. C'est en fait du côté du hors compétition qu'on trouvera le glamour. Top Gun Maverick avec Tom Cruise programmé le 18 mai. Elvis, le film sur le King avec notamment Tom Hanks, c'est pour le 25. Seront également présentés Mascara, le nouveau Nicolas Bedos avec Pierre Niney et Isabelle Adjani ou encore Novembre avec Jean Dujardin sur les attentats de 2013. Côté symbole, le cinéaste ukrainien Losnitsa et son collègue exilé russe Sergueï Brennikov seront présents. Quant au 75e anniversaire, il sera célébré le 24 mai lors d'une journée spéciale.
Les frères Dardenne, c'est à chaque fois.
Ben, vous savez, il y a quatre.
Les frères Dardenne à Cannes. J'attendais le nom des frères Dardenne.
Mais il y a des habitués, ils l'ont
fait. Oui, bien sûr. Bah, oui, mais eux, c'est à chaque fois. Oui, mais j'en suis
et
convaincu.
À chaque fois avec un prix.
Bien sûr, ah ben, je suis sûr qu'ils vont l'avoir, là, d'ailleurs, on les frères Dardenne.
Merci à vous, Stéphane. Ce soir, du fou. Avec les quarts de finale retour de la Ligue Europa, l'OL reçoit West Ham. Un partout, on le rappelle, au match aller. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
Les Lyonnais jouent ce soir leur saison à la fois sportivement et financièrement.
Et oui, l'OL, c'est le deuxième plus gros budget de France, 250 millions d'euros par saison. Mais l'OL, c'est seulement une dixième place pour l'instant en championnat. Éliminé en Coupe de France, le club de Jean-Michel Aulas se retrouve donc quasiment dans l'obligation de remporter cette Ligue Europa pour s'assurer une présence européenne l'an prochain, nécessaire à l'équilibre des comptes. La pression est lourde donc ce soir sur les épaules de Peter Bosch, entraîneur controversé qui appelle à l'union sacrée et au soutien des supporters.
J'ai l'expérience dans les gros matchs comme ça, ça peut être la différence. Mais je dis toujours aux joueurs aussi, il faut beaucoup d'énergie, avec un très bon état d'esprit, et comme ça les supporters sont le plus vite possible derrière toi. En quart de finale Europe, c'est quelque chose de spécial. On peut arriver en demi-finale, donc oui, c'est un match spécial, absolument.
Alors la bonne nouvelle, c'est que Lyon sait se transcender en Coupe d'Europe. Il y est invaincu cette saison. Il le faudra encore ce soir pour s'éviter une fin de saison très agitée sur fond de crise interne.
Et Philippe Sanfourche en Ligue Europa Conférence, la troisième Coupe d'Europe. On suivra ce déplacement au risque de l'OM sur le terrain du PAOK Salonique. Les Marseillais s'étaient imposés 2-1 à l'aller.
Pas d'infos sur Mbappé, Philippe Sanfourche, il est toujours au Paris Saint-Germain ?
Pour l'heure.
Jusqu'à nouvel ordre.
Pour l'heure.
Et tout le monde s'active en coulisses pour qu'il y reste.
Ah,
bah jusqu'au sommet de l'État.
12h42, on va marquer une pause. Et notre premier sujet, manger moins cher ne veut pas forcément dire manger moins bien. C'est une bonne nouvelle.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
On a certaines catégories dans lesquelles les marques de distributeurs sont très largement au-dessus des marques nationales. C'est notamment la catégorie des frites, où on a une marque de distributeur deux fois moins chère et elle ne contient que deux ingrédients alors que la marque nationale en contient 13 et bourrée de sel et bourrée de matière grasse.
C'est l'un des principaux enseignements de cette grande enquête de 60 millions de consommateurs. Manger moins cher ne veut pas forcément dire manger moins bien. Voilà une bonne nouvelle qui plus est en ces temps de crise du pouvoir d'achat. L'association a comparé plus de 150 produits de marque avec leurs équivalents marques distributeurs, les frites donc, mais aussi des yaourts, des soupes ou encore des cordons bleus. Résultat, les marques distributeurs sont 30% moins chères et la plupart du temps au moins aussi bonnes pour la santé. Bonjour Olivier Dauvert.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la grande distribution. D'abord, vous êtes surpris par ces résultats ?
Ah, pas du tout, pas du tout. Ça fait très longtemps que on le sait, ça fait très longtemps qu'on le regarde, et tout simplement parce que, j'allais dire, ça s'explique de manière très rationnelle. La différence entre une marque de distributeur et une grande marque, c'est une partie de coûts, de dépenses qui sont dans l'une et qui ne sont pas dans l'autre. Quand vous achetez,
par exemple,
quand vous achetez les fameuses frites surgelées de grandes marques auxquelles vous avez fait référence, vous allez payer pour de la publicité, vous allez payer pour du marketing, vous allez payer pour ce qu'on appelle des commerciaux sur le terrain, ceux qui vont vendre les frites magasin par magasin presque, j'allais dire. Et donc, ces dépenses-là, elles se retrouvent dans le prix de votre paquet de frites. Quand vous achetez des frites à la marque de votre magasin, bien, ces dépenses, elles n'y sont pas. Mmh. Donc, vous pouvez baisser le prix des produits sans avoir à toucher à la qualité intrinsèque des produits pour avoir des prix plus bas. Donc, vous voyez, il y a une explication assez rationnelle et c'est bien pour ça que ça fait déjà très longtemps que les conclusions de cette étude, finalement, on peut les faire chaque année. Ce sont les mêmes conclusions.
Et parfois, ces produits sont fabriqués dans les mêmes usines que les produits de marque.
Absolument, vous avez certains industriels qui acceptent de faire des marques de distributeurs, mais attention quand même à l'amalgame, c'est pas parce que c'est fait dans la même usine que c'est nécessairement le même produit. Aujourd'hui, tous les distributeurs écrivent leur cahier des charges, écrivent les recettes qu'ils veulent pour leurs produits. C'est pas nécessairement exactement les mêmes. Ça peut être parfois meilleur. Vous savez, je vais vous prendre l'exemple des glaces. C'est bientôt l'été. Quand vous achetez des glaces de grandes marques, eh bien, la matière grasse qui est utilisée dans ces glaces, c'est en général de l'huile, hein, puisque c'est de la matière grasse végétale. Quand vous achetez des marques de distributeurs, souvent, la matière grasse utilisée, c'est de la crème fraîche. Alors certains trouveront qu'il vaut mieux de la matière grasse végétale qu'animale, mais bon, d'un strict point de vue gustatif, il est par exemple démontré que la crème fraîche produit des glaces qui sont plus séduisantes au palais. Ben, vous voyez que dans ce genre de produit, vous pouvez même avoir des recettes qui sont finalement mieux disantes.
Mais alors comment on fait, pardon, on regarde encore les étiquettes, c'est quand même compliqué de faire ses courses
goûte,
à chaque
peut-être.
Fois.
Oui, on non, goûte, mais... une fois on prend l'un et puis une fois on prend l'autre.
Oui, mais si on veut...
Oui, et puis on commence peut-être, Pascal, par regarder les étiquettes. Oui. On a ce sentiment que ben, finalement, on peut faire confiance, on peut ne pas regarder que ce soit les prix ou les compositions. Mais après tout, exerçons notre libre arbitre, regardons, et puis vous allez les voir facilement. Vous savez, un petit truc, quand vous regardez la liste des ingrédients sur un produit alimentaire, ils sont obligatoirement inscrits par ordre décroissant. Donc ça veut dire que l'ordre d'apparition dans les ingrédients, c'est le poids qu'il représente dans la composition.
Et plus il y en a,
vous pouvez
plus
déjà
c'est
très
mauvais,
facilement
non, c'est
comparer.
Plus il y en a, plus c'est mauvais, non? Plus il y a d'ingrédients.
Bah, il vaut mieux qu'il n'y ait pas beaucoup. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas beaucoup d'ingrédients, effectivement. Quand vous achetez des yaourts, en toute logique, il n'y a pas besoin d'avoir 15 ingrédients. Parfois, il y en a beaucoup. Donc, il y a le nombre d'ingrédients. Ça, c'est pour l'aspect nutritionnel. Et puis, pour l'aspect parfois plus gustatif, c'est regarder quel est le produit. Si vous achetez une crème au chocolat et que le chocolat passe après tous les autres ingrédients, c'est que probablement, même s'il n'y a pas écrit noir sur blanc le pourcentage, c'est que probablement, il y en a moins. Donc, vous savez, on a des yeux. Il faut les utiliser quand on achète. Tout simplement.
Ces marques distributeurs, elles produisent tous les produits possibles, consommables, ou il y a des choses qu'elles ne fabriquent pas, qu'elles ne produisent pas ?
Alors, elles essayent de vendre tous les produits possibles. Cela dit, nous, les consommateurs, nous sommes plus ou moins perméables suivant les catégories de produits. Par exemple, une catégorie de produits sur laquelle il n'y a quasiment pas de marque de distributeur, ce sont les laits pour bébés. Pourquoi ? Ben parce que quand vous êtes un jeune parent, vous avez envie de faire confiance à une grande marque. Ah. Et vous allez plutôt mettre du lait Gallia, Gigos, Blédina, peu importe la marque, plutôt que du lait Carrefour, du lait Auchan, du lait Leclerc. À l'inverse, si je vous amène au rayon surgelé pour acheter des légumes surgelés, des carottes surgelées, des courgettes surgelées, des haricots verts surgelés, eh bien là, 80% des ventes se font sous marque de distributeur. Pourquoi ? Ben parce que finalement, pour le consommateur, des courgettes ou des haricots, c'est des courgettes ou des haricots. Il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir ce qu'on appelle la réassurance de la grande marque.
Les biscuits.
Oui, pardon ?
Les biscuits.
Les biscuits, c'est une catégorie où les marques sont fortes, notamment quand vous les destinez à vos enfants.
Exactement.
Quand vous les destinez à vos enfants, parce que ce qui va vous faire arbitrer, parce que nous faisons des arbitrages permanents dans les magasins, c'est pour qui adressons-nous le produit que l'on va acheter. Vous voyez, par exemple, dans toutes les enseignes, vous avez des bouquets de fleurs qui portent la marque de l'enseigne. Eh bien, je suis sûr que vous n'avez jamais regardé ça, mais vous, Pascal, quand vous offrez un bouquet de fleurs à votre femme, vous allez pouvoir enlever le sticker où il y a marqué Carrefour dessus. Parce qu'en fait, c'est une marque de distributeur qui vous rassure. Mais vous les achetez peut-être pas chez Carrefour, mais admettons pour l'exemple, eh bien, voir une marque de distributeur, ça va vous rassurer, vous, l'acheteur que vous êtes dans le rayon, parce que vous savez que c'est des produits d'un bon rapport qualité-prix. Par contre, vous avez besoin de faire disparaître l'enseigne parce que ça va affaiblir le produit que vous allez donner. Vous voyez, de la même manière, les marques de distributeurs sur les alcools et sur les spiritueux sont généralement présentées sous forme de collerettes pour qu'on puisse les enlever et que ça n'apparaisse pas sur la table que vous mettez un champagne Carrefour ou un pastis Leclerc. Mais voyez, il y a des marques de distributeurs qui ont besoin de disparaître pour être consommées parce qu'elles ne sont pas toujours valorisantes.
Alors c'est Carrefour le premier qui a lancé en 76 sa marque distributeur et puis derrière tous les autres s'y sont mis. Et le hard discount, Olivier Dauvert, n'est pas en reste. On évoquait ces frites Lidl par exemple.
Oui.
Ils sont à la hauteur eux aussi.
Oui, parce que le hard discount, c'est même sa particularité, c'est une forme de vente. Alors, il y a Lidl, il y a Aldi, il y a Netto, qui vend quasiment que des marques de distributeurs. Dans un magasin Lidl, vous avez 80% de marques de distributeurs dans les rayons. Dans un magasin Carrefour, vous avez 80% de grandes marques dans les rayons. Vous voyez, c'est dans une proportion inverse. Donc, les enseignes dont vous parlez, ces fameux discounters, eh bien, eux se sont fait une spécialité de vendre quasiment que des marques de distributeurs. Parce que c'est la façon pour eux d'apparaître moins cher, tout simplement. Parce que c'est difficile d'apparaître moins cher sur des biscuits ou de la pâte à tartiner vendus chez tout le monde, quasiment au même prix.
On peut élargir à même des produits qui ne se mangent pas. Moi, j'ai souvent entendu dire que les crèmes, notamment, vous achetez une crème à 2 euros ou une crème à 200 euros, c'est exactement la même composition, quasiment, et que ça vous fera le même bénéfice.
Vous parliez de Lidl, eh bien très régulièrement, la crème de jour et la crème de nuit Lidl est dans les classements, quasiment en première place ou à tout le moins sur le podium de toutes les associations de consommateurs que l'on parle de Que Choisir ou de 60 millions. Et elle vaut 2,99 €, ce qui est quand même vraiment pas cher.
Bah écoutez, merci de ces précisions. Il est 12h51, on va parler d'un deuxième sujet dans un instant, l'écologie. Que disent les candidats sur l'écologie, leurs propositions? À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Présidentielle 2022.
J-10.
À 10 jours donc du second tour, Emmanuel Macron, vous l'avez entendu tout à l'heure avec William Galibert, est au Havre pour parler écologie, un sujet dont il faut bien reconnaître on a peu parlé au cours de ces dernières semaines. Alors que propose-t-il en la matière? Quelle différence avec Marine Le Pen? C'est le deuxième débat de RTL Midi. Marie-Bénédicte Allaire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes plongée dans le programme de chacun des candidats et premier point, on est d'accord, l'écologie n'est pas vraiment leur sujet de prédilection, pas en tout cas au cœur de la campagne.
Non, effectivement, alors même que dans les enquêtes d'opinion, le climat, c'est la troisième préoccupation exprimée par les Français. Ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron n'ont mis, en tout cas avant le premier tour, ce sujet au cœur de leurs propositions. Si on regarde le programme d'Emmanuel Macron, c'est une page sur une vingtaine dans son programme. Alors, dans celui de Marine Le Pen, il y a un joli livret qui fait 18 pages, mais il n'y a pas beaucoup d'engagement concret dedans. Alors, si on veut résumer, pour Emmanuel Macron, c'est nucléaire, développement des énergies renouvelables et remplacement du parc automobile par des voitures électriques. Et chez Marine Le Pen, c'est suivre la voie française pour arriver aux objectifs de l'accord de Paris, c'est un peu flou, une écologie enracinée et pas punitive avec un soutien au nucléaire et la mise en place du localisme, c'est-à-dire consommer et retraiter au plus près.
Alors, ils sont tous les deux pro-nucléaire, c'est comme ça qu'on peut les étiqueter. Quelle différence entre les deux?
Alors, Emmanuel Macron lui propose de construire 6 réacteurs de nouvelle génération et éventuellement de 8 autres. Et puis, il a imposé la fermeture des 2 réacteurs de la centrale de Fessenheim. Il propose maintenant de prolonger les centrales les plus anciennes. Marine Le Pen, elle veut relancer la filière nucléaire en mettant en chantier des réacteurs de 4e génération. Et là où Emmanuel Macron parle de construire 6 réacteurs nucléaires, pour elle, c'est un minimum. Et puis, elle dit qu'il faut en plus garder en service les réacteurs dont la fermeture est déjà programmée.
Pas d'accord du tout, en revanche, sur les éoliennes. Marine Le Pen n'en veut pas. Emmanuel Macron plaide pour des éoliennes en mer et les éoliennes terrestres. Il en dit quoi ?
Alors, Emmanuel Macron, il veut développer les éoliennes en mer, avec 50 parcs éoliens. Sur le terrestre, il freine. Il dit que il faut doubler les capacités de l'éolien terrestre pour atteindre son objectif, c'est 37 gigawatts par an en 2050, alors qu'initialement, ça, c'était un objectif de 2030. Voilà. Et puis, Marine Le Pen, effectivement, elle veut un moratoire à la fois sur l'éolien et sur le solaire, et elle veut démanteler progressivement les sites éoliens quand ils arriveront en fin de vie. Et toutes les subventions qui sont consacrées à ces énergies-là seraient suspendues et l'énergie vendue au prix, l'énergie qui est maintenant un prix un peu plus intéressant, serait vendue au prix du marché.
Emmanuel Macron a dit hier soir sur TF1 qu'il souhaitait justement enrichir son projet sur cette question. On va l'écouter.
Mon souhait, c'est aussi d'enrichir le projet qui est le mien. En regardant ce qui, dans les projets de celles et ceux qui ont décidé de me soutenir, est à la fois compatible et le rend plus fort. La décroissance, etc., ça n'est pas dans mon programme, je vous le confirme, je ne vais pas changer. Je pense qu'il faut créer des richesses pour pouvoir redistribuer, être plus fort. Par contre, la planification écologique, les éléments de proposition sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la mer, sont des choses qui sont compatibles. Parfois que j'ai pu commencer, propose d'aller plus loin, je suis intéressé par ces propositions.
Aller plus loin, qu'est-ce qu'il pourrait ajouter concrètement, Marie-Bé ?
Alors, il parle effectivement de planification écologique. Alors ça, c'est un concept qui est porté depuis 10 ans par Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que ça veut dire, planification ? Bah, prévoir. Donc, c'est se fixer des objectifs avec des dates et avancer comme ça en les tenant. Alors, dans le projet de Jean-Luc Mélenchon, il y aurait un conseil à la planification écologique rattaché au Premier ministre, une structure qui coordonnerait l'élaboration d'une loi de planification. Alors, c'est quand même assez... contraignant et puis un petit peu comment dire je trouve plus mon mot mais
c'est pas ça, très concret
c'est pas concret mais comment dire c'est mettre des structures en place très rigides voilà c'est un peu alors est-ce qu'il reprendra cette idée là jusqu'au bout on ne sait pas c'est aussi flou dans ce qu'il dit et puis il veut aussi accélérer l'économie circulaire ça c'est plus un clin d'œil à Yannick Jadot et il dit aussi que ça pourrait concerner la qualité de l'air de l'eau de la mer bon ça c'est pareil, ça mange pas de pain et ça plaît et normalement à Jadot et à Mélenchon. Voilà. Bon, ça reste flou. Enfin, vraiment, il faut qu'il en dise plus parce que à ce stade, c'est pas très concret.
Et alors, quand on pense écologie, environnement, il y a forcément la voiture.
Oui.
On va écouter Marine Le Pen à ce sujet.
Le tout électrique, c'est bien gentil, mais on n'a pas assez d'électricité. Vous voyez, donc c'est bien gentil de dire on va passer toutes les voitures en électrique, mais encore faut-il qu'on puisse produire assez d'électricité pour les faire rouler. Or, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc moi, je crois à la transition douce, c'est-à-dire je crois qu'il faut faire une transition, mais il faut laisser le temps aux gens, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule. Et puis, oui, bien sûr, il faut des voitures hybrides, parce que le gouvernement voulait les supprimer, donc il est revenu sur cette suppression, et tant mieux. Il faut, bien entendu, des voitures électriques. Il faut demain s'appuyer sur l'hydrogène, car pour les transports lourds, les bus...
Et après-demain.
Oui, peut-être après-demain. Mais je veux dire, moi, je suis pour le progrès. Je pense que c'est la technologie qui, en réalité, répondra aux défis qui sont les défis climatiques.
Voilà, donc
ça, c'est intéressant ce qu'elle dit. Je crois au progrès et c'est des progrès qui vont répondre aux défis climatiques.
Oui, ben ça,
tout le monde ne le dit pas comme ça.
En ça, c'est pas très différent de ce que dit Emmanuel Macron, effectivement. Alors, elle assiste sur le fait qu'il faut baisser de 20% à 5,5% la TVA sur les carburants. Là où Emmanuel Macron, quand il parle de l'électrique, vous savez, il y a une mesure qu'il propose, c'est un leasing sur les véhicules électriques pour les ménages modestes et les gens qui roulent beaucoup. Ça leur coûterait 100 € par mois. Voilà.
Bah merci, c'est vrai que, et c'est un des paradoxes, durant la présidentielle, on aura assez peu parlé d'écologie, et même le candidat écologique aura été assez décevant, en tout cas, avec son score dimanche soir. Il est 12h58, les auditeurs, dans une seconde.
Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210, 50 centimes la minute.